C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Cindy.
Bonjour Rose, bonjour à tous et à toutes.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui comme chaque mardi à midi pour parler science avec différents invités. Nous sommes le 15 octobre et aujourd'hui nous revenons sur le village des sciences.
Il s'est tenu au campus 1 de l'université de Caen les vendredis 11 et samedi 12 octobre dernier à l'occasion de la 33e édition de la Fête de la Science. Et nous nous y sommes rendus pour rencontrer chercheurs, experts, enseignants et artistes rassemblés autour d'une même thématique, les fonds marins. L'occasion de découvrir les différents écosystèmes qui les habitent et de s'interroger sur leur préservation.
Mais avant cela, c'est l'heure des infos sciences de la semaine. Et pour commencer, des pesticides ont été retrouvés dans l'organisme de plusieurs enfants à La Rochelle.
Les cheveux et les urines de 70 enfants âgés de 3 à 17 ans ont été analysés et le résultat est sans appel. 14 substances nocives ont été retrouvées dans leurs urines et 45 dans les cheveux, révèle une enquête conjointe entre Le Monde et France Info. À l'initiative de ces analyses, l'association Avenir Santé Environnement, fondée en 2018 par des familles touchées par le cluster de cancer pédiatrique repéré dans le secteur de Périgny et Saint-Rogatien.
Mais connaît-on le détail de ces analyses ?
Selon Le Monde et France Info, les 70 enfants présentent tous des traces de pesticides alors même que certains d'entre eux sont interdits en France. C'est le cas du fipronil, de l'atrazine interdit depuis 2004, de l'acétamipride, un insecticide néonicotinoïde ou du dieldrine interdit depuis les années 1970. Mais pour l'heure, si cette étude vise à faire réagir les autorités, l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ne souhaite pas commenter les études civiles non scientifiquement prouvées. Le Doliprane va rejoindre un fonds d'investissement américain.
Eh oui, cela fait plusieurs mois que Sanofi, le plus grand laboratoire pharmaceutique de France, souhaite se décharger de sa filiale Opella. Cette branche de médicaments grand public est notamment responsable des marques Doliprane, Lisopaline ou encore Allegra. Après plusieurs mois d'enchères, la transnationale française a annoncé vendredi dernier être en négociation avec la société d'investissement américaine Clayton, Dubilier & Rice. Elle envisage de lui vendre la moitié du contrôle de sa filiale pour la modique somme de 15 milliards de dollars. Une décision qui a ébranlé les syndicats et la classe politique de toutes parts, certains allant jusqu'à la qualifier de trahison.
Mais en quoi cette acquisition est-elle préoccupante ?
Eh bien, au-delà de la question de souveraineté sanitaire, les syndicats craignent une délocalisation de la production vers des pays moins coûteux. Pour l'instant, les médicaments sont fabriqués dans l'Oise et ici en Normandie, à Lisieux. Face à ces inquiétudes, le ministre de l'économie Antoine Armand a annoncé qu'il exigeait des garanties extrêmement fortes afin que le Doliprane continue à être produit en France par des salariés en France. Il n'exclut pas de bloquer la vente si ces garanties ne sont pas acceptées. La comète C2023A3 est visible en Europe depuis ce week-end.
Elle est surnommée la comète du siècle. C2023A3, déjà visible dans l'hémisphère sud depuis le 20 septembre, a atteint son paroxysme lumineux entre le 11 et le 12 octobre dernier. Découverte en février 2023, elle est identifiable par sa remarquable luminosité, même à grande distance du Soleil. Elle sera encore observable en regardant à l'ouest pendant une dizaine de jours, mais baissera peu à peu en luminosité au fur et à mesure qu'elle s'éloignera du Soleil.
Mais d'où vient cette comète ?
Elle a probablement vu le jour dans le nuage d'Oort, une hypothétique et gigantesque assemblage de minuscules planètes et corps célestes aux confins du système solaire. Selon certaines hypothèses, elle a pu se trouver jusqu'à 400 000 fois la distance Terre-Soleil avant d'être observable par des humains. Elle aurait donc voyagé pendant des millions d'années à travers le cosmos avant d'arriver dans les environs de la Terre. La semaine dernière, les lauréats des prix Nobel ont été officialisés.
Et oui, l'occasion pour nous de faire un petit tour des lauréats scientifiques de cette année. Le prix Nobel de physique a été décerné à John Hopfield et Geoffrey Hinton, deux spécialistes des réseaux neuronaux. Leurs travaux ont permis des progrès fulgurants de l'apprentissage automatique qu'on connaît sous le nom d'intelligence artificielle. C'est d'ailleurs pour des travaux fondés sur l'intelligence artificielle que le prix Nobel de chimie a été attribué également. Il a en effet été perçu par John Jumper et Demis Hassabis à la tête de Google DeepMind et David Baker, spécialiste de la forme des protéines. Ensemble, ils ont conçu une IA capable de prédire la structure tridimensionnelle des protéines et ont ainsi pu créer la toute première protéine artificielle. Cette connaissance permettra de créer de nouveaux produits pharmaceutiques et vaccins.
Et qui sont les lauréats en médecine ?
Le prix Nobel a été récompensé les Américains Victor Ambrose et Gary Rufkin pour la découverte et l'étude du micro-ARN. Ces minuscules molécules jouent un rôle crucial dans la régulation des gènes. C'est un enjeu de taille puisqu'un dérèglement peut entraîner maladies auto-immunes, diabète, voire cancer. Des chercheurs tentent de concevoir un alphabet phonétique interespèce grâce à l'intelligence artificielle.
Aboiement, chant de baleine ou caquettement, des scientifiques du monde entier s'attellent à transcrire sous forme de texte les sons générés par les animaux. C'est le cas par exemple des experts du projet Espèces terrestres. Pour ce faire, les scientifiques recueillent des bribes sonores grâce à des enregistreurs attachés aux corbeaux ou encore aux carapaces des tortues.
Mais cette découverte ne risque-t-elle pas d'être néfaste pour les espèces ?
En effet, si les différents projets n'ont pas encore abouti, la question des conséquences d'une telle innovation se pose déjà, notamment en termes d'impact sur le bien-être animal. La maîtrise d'une communication interespèce placée entre de mauvaises mains risque de faciliter la capture ou l'exploitation d'espèces sauvages, tout en causant des troubles sur l'environnement dont on ne mesure pas encore l'ampleur et les effets. Et pour terminer ce flash coup d'œil dans le rétroviseur, il y a 33 ans, des astrophysiciens ont découvert la particule OMG.
Oh my god, c'est le nom donné aux rayons cosmiques détectés le 15 octobre 1991 à 13h34 et 16 secondes précises dans l'Utah. Et si cette particule a fait autant parler d'elle, c'est parce que son énergie atteignait les 320 hexaélectronvolts, faisant d'elle la plus puissante jamais enregistrée. Cette quantité d'énergie a tellement surpris les chercheurs qu'ils ont mis 2 ans à rendre leur découverte publique.
Mais d'où vient ce rayon ?
Justement, c'est un mystère pour les scientifiques. Plusieurs hypothèses ont été émises, trous noirs, collisions de galaxies ou encore magnétars, mais celles-ci devraient pouvoir être observables en remontant la ligne de visée du signal. Or, impossible d'en trouver la source. Le rayon semble venir d'une zone dépourvue de galaxies. Oh my god n'est pas la seule occurrence de rayons cosmiques ayant déconcerté les scientifiques. Plus récemment, en 2021, la particule Amaterasu a été mesurée à 240 hexaélectronvolts. L'origine exacte de ces particules hyper-énergétiques demeure encore inconnue à ce jour.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Ce week-end au campus 1 de l'université de Caen se tenait le Village des Sciences. Une multitude d'actrices et d'acteurs du monde scientifique était au rendez-vous pour rencontrer le public à travers des conférences, des ateliers et des expositions. Nous nous y sommes rendus ce vendredi 11 octobre, journée réservée aux scolaires. Et si la plupart des exposants étaient rassemblés dans la salle Hola Mania, nous avons d'abord fait une escale à l'amphithéâtre Rouel pour rencontrer Bastien Lemaire, ambassadeur de la Fête de la Science, qui sortait tout juste de sa conférence sur l'intelligence des sèches.
Donc je m'appelle Bastien Lemaire, je suis chercheur postdoctorant au sein du laboratoire Ethos pour éthologie animale et humaine. C'est un laboratoire qui est basé à la station marine de Luc-sur-Mer et qui est rattaché à l'université de Caen, au CNRS et à l'université de Rennes. Et cette année, c'est la 33e édition de la Fête de la Science, qui a pour thématique Océan des Savoirs, et j'ai la chance d'être l'ambassadeur régional de cette fête. Alors j'ai réalisé une conférence sur l'intelligence des céphalopodes et comment on fait en laboratoire finalement pour les étudier et pour leur parler. Et puis après je détaille un petit peu plus on parle un petit peu plus des sèches aussi en particulier parce que c'est le modèle animal qu'on utilise principalement au laboratoire. Alors c'est une conférence qui est très large, hein, qui parle des céphalopodes, qui montre toutes leurs capacités, que c'est une classe d'animaux qui est fantastique et qui a énormément de capacités. Elle peut changer de couleur, de forme, elle met en place des stratégies ultra développées pour se cacher, pour attraper ses proies ou à l'inverse échapper à ses prédateurs. Donc voilà, c'est une espèce qui est ultra intéressante et qui fascine toujours le grand public.
C'est quoi les enjeux de faire de la médiation autour de ces sujets-là, surtout vis-à-vis d'un public qui est encore en études et qui va s'avancer doucement dans la vie professionnelle?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà faire découvrir ce que c'est que le métier de chercheur. On ne sait pas toujours quand on est jeune. Moi, je ne le savais pas, en tout cas. Ensuite, il y a découvrir le métier d'éthologiste et la discipline scientifique, l'éthologie. Hein, pareil, en général, les personnes ne savent pas ce que c'est que l'éthologie. Je le rappelle, c'est l'étude du comportement animal, l'étude scientifique du comportement animal. Donc ça leur permet déjà de s'approprier un peu ces thèmes et de se rendre compte que c'est possible de faire des métiers dans ces thématiques-là. Et puis après, en apprendre un petit peu plus sur les céphalopodes, sur la recherche, et finalement, mieux comprendre, c'est aussi mieux protéger. Et dans un monde qui change, avec des dérèglements climatiques, des océans qui se réchauffent ou qui s'acidifient, et bien mieux comprendre les espèces qui y sont, ça nous aidera à mieux les protéger pour demain.
Et du coup, vous sortez tout juste de votre conférence avec les lycéens. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils étaient intéressés et investis?
Ça s'est très bien passé. Ils ont été très intéressés. Il y a eu beaucoup de waouh quand j'ai mis quelques vidéos de céphalopodes en train de changer de couleur et de motif. Donc c'était très intéressant.
Vous nous parliez tout à l'heure d'une inauguration qui allait avoir lieu samedi et dimanche. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit
Alors,
peu plus
En effet, le 12 et le 13, de 10h à 18h, on ouvre les portes du CREC, donc de la station marine à Luc-sur-Mer, et on va proposer 15 animations scientifiques pour présenter les recherches qui sont menées au sein de cette station marine, dont le laboratoire ETHOS fait partie.
Et donc, vous êtes chercheur au laboratoire ETHOS. Comment est-ce qu'on arrive à avoir cette distance suffisante pour rendre ces sujets accessibles à un grand public ?
On s'entraîne, on essaie de le faire et puis on apprend avec le temps aussi. Mais c'est un challenge et c'est un beau challenge parce que la science, elle appartient à tout le monde et il faut essayer de la partager, il faut essayer de la rendre visible et accessible au public le plus large possible, aux plus jeunes, aux moins jeunes. Et c'est tout le challenge, mais c'est aussi ce qui est intéressant. Et des fois, il y a des bonnes idées, même souvent, il y a de très bonnes idées qui émergent quand on parle avec le public et le grand public qui est souvent naïf sur les questions de recherche sur lesquelles on travaille. Donc c'est bien des fois de prendre un petit peu de recul sur ses recherches, se rendre compte qu'on travaille sur un domaine qui est ultra spécifique et que peut-être on peut apprendre aussi d'autres choses quand on essaie de divulguer un peu toutes ces informations pour un public plus large.
Et pour terminer, vous êtes ambassadeur de la Fête de la Science cette année, en tout cas dans notre région. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce rôle, de ce qui l'engage ?
Alors oui, c'est avec fierté. Moi, je suis normand de base, donc c'est une fierté pour moi que d'être l'ambassadeur régional pour la Fête de la Science. Et finalement, mon rôle, c'est d'essayer d'être là pour le grand public, de leur montrer toutes les recherches et de participer justement à cet effort général de montrer nos recherches sur le territoire normand et de les rendre accessibles au plus grand public, que ce soit les plus jeunes, mais aussi les moins jeunes. C'est aussi essayer de faire naître des vocations, leur faire découvrir des disciplines qu'ils ne connaissent pas, pour potentiellement trouver des passionnés.
Et pour ce qui est de rendre ces recherches accessibles au grand public, nous allons justement nous diriger vers les différents stands de ce village des sciences. Tout de suite, nous retrouverons Florence Menet, cadre de recherche à l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Et elle nous parle des activités qu'il propose dans ce village.
Alors on a décidé de proposer trois thèmes un peu sur ce village dans notre stand. Donc il y en a un pour éveiller un peu les consciences sur le phytoplancton et son importance dans le milieu marin, avec aussi des observations de zooplancton. Ensuite, on présente un peu nos activités de surveillance et d'observation du milieu marin, nos techniques d'observation, quels outils on utilise, et puis de faire pratiquer un petit peu. Et enfin, on parle des menaces en fait, qui pèsent sur l'océan. Et donc, on en traite de deux principales, c'est celle sur la pollution et notamment des microplastiques, et sur l'impact du changement climatique aussi sur le milieu marin.
Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses sur votre stand. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu votre installation ?
Oui, d'accord. Alors, sur la partie phytoplancton, donc on a installé un microscope inversé pour pouvoir observer des flores qui ont été pêchées hier. Donc, c'est encore tout frais sur la côte ouest du Cotentin. Donc, on peut venir voir ces espèces en présence. Donc, on explique un petit peu les différents types d'espèces. Ensuite, on a une deuxième poste qui est une binoculaire avec à côté un petit élevage de zooplancton, pareil, pour voir juste les observer. L'idée, c'est aussi de provoquer un peu un émerveillement. Ensuite, sur la partie observation, on explique les cartes, on montre un peu nos outils, les bouteilles Niskin, les sondes multiparamètres. On fait faire aussi des petites mesures à la sonde multiparamètre pour comparer un petit peu ce que c'est entre les paramètres de l'eau de mer par rapport à celle de l'eau du robinet, qu'on connaît bien. Et puis enfin, sur la partie microplastique et impact du changement, on a une carte du bassin versant de l'AA en 3D, donc qui nous permet de bien expliquer ce que c'est qu'un bassin versant, comment transitent les polluants vers la mer, et puis ensuite expliquer les différentes sortes de plastiques qu'on retrouve, où on les retrouve et comment ils se dégradent, donc les différents stades un petit peu de dégradation des plastiques dans l'environnement, jusqu'aux microplastiques qu'on peut observer dans une loupe binoculaire.
Et donc, à qui s'adressent toutes ces activités ?
Cette activité s'adresse à tous les âges. Bon, forcément, il faut quand même comprendre un petit peu, avoir un minimum de compréhension, mais même pour les enfants, juste venir s'émerveiller à observer ce que c'est que du phytoplancton, du zooplancton, ou où je vois les classes de la classe de CM1, CM2 qu'on a eu ce matin étaient fascinées par notre carte de bassin versant et puis par les plastiques, observer les plastiques. Voilà, c'est tous les âges sont bienvenus pour discuter.
Et en quoi c'est important aujourd'hui de faire de la médiation autour du milieu marin? En quoi c'est important de faire comprendre à la jeunesse aujourd'hui, parce qu'on est la journée des scolaires, et plus largement au grand public, faire comprendre les enjeux de ce milieu-là?
Le milieu marin et les océans, de façon très large, ont un rôle crucial en fait dans la vie de notre planète. Et donc, la bonne santé de ce milieu est essentielle pour nous. Hein. C'est le principe du One Health, donc une santé pour tous, où on est tous interconnectés en fait, et ça a un impact sur nous aussi, être humain, qui profitons des bienfaits de cet océan sans même quelquefois le savoir. Donc c'est aussi une façon d'essayer de faire comprendre des choses qu'on ne soupçonne pas sur le rôle de ce milieu marin pour nous.
Et donc en tant que scientifique, comment arrivez-vous à rendre vos travaux et vos recherches accessibles au grand public ?
Alors, déjà, il faut aimer quand même communiquer, ça c'est sûr. Et puis, on essaie de s'adapter aux différents âges en vulgarisant, mais pas trop. Et puis, essayer de forcément, la médiation scientifique, les gens, ils aiment aussi toucher, voir, expérimenter. Donc, on essaie de trouver des moyens de le faire. Après, je trouve que c'est essentiel de s'adresser même aux plus jeunes, parce qu'ils sont très réceptifs. Je trouve qu'au niveau primaire, ils sont très, très réceptifs. Je fais des interventions en école aussi, dans le cadre d'autres programmes de médiation scientifique de l'IFREMER et de Villefranche-sur-Mer, comme Adopt-Float, ou le dernier qui est Aimons l'eau de mer, qui permettent vraiment à des classes un petit peu de s'approprier, de comprendre ce milieu marin. Et je trouve ça très intéressant, à la fois pour moi, mais voilà, et puis bien sûr pour nos citoyens.
Et justement, vous parlez du jeune public. Aujourd'hui, c'est, on l'a dit, la journée des scolaires. Ça a commencé déjà ce matin. C'est quoi la réaction? Comment ça se passe avec les scolaires aujourd'hui?
Ça se passe très bien. Après, on voit bien que... Après, c'est plus une question d'attitude. Les plus jeunes, donc ceux qui viennent de primaire, CM1, CM2, sont hyper réceptifs, sont très intéressés. Après, il faut arriver à faire des discours relativement courts, parce que sinon, on les perd. Mais ils sont hyper curieux, ils posent beaucoup de questions. Les plus grands, c'est plus passif, en fait. Peut-être qu'ils absorbent plus, ils osent peut-être moins poser des questions. Et donc, voilà. C'est pas le même public, mais on s'adapte. Et c'est vrai que... Je trouve que les primaires et les premières années de collège, c'est vraiment très intéressant de faire des interventions avec eux.
Et donc, à part ici, au Village des Sciences, est-ce que vous faites d'autres événements comme ça de médiation ?
Alors, nous, en tout cas, à la station de Port-en-Bessin, donc effectivement, ça fait quelques années qu'on essaie de participer systématiquement à la fête de la science. C'est justement via les programmes de médiation scientifique de l'IFREMER qui sont mis en œuvre à l'échelle nationale, à laquelle j'essaie de participer pour parler de mon métier et de l'IFREMER et des problématiques et enjeux du milieu marin. Donc, c'est comme je disais, donc les programmes Adopt-Float et Aimons l'eau de mer notamment, qui permettent de faire des interventions à différents niveaux de la primaire au lycée. Donc, voilà.
Et le Village des Sciences, c'est un événement qui rassemble beaucoup, beaucoup d'acteurs du monde scientifique en Normandie. Est-ce que vous arrivez à travailler ensemble, à réseauter, en fait, à guider les gens dans ce circuit, ce qui est quand même beaucoup de stands? Comment ça fonctionne?
Après, effectivement, ça dépend des années et des thématiques, mais là, je vois que nos voisins, c'est le CIMEL et le CNAM Intecmer, on travaille régulièrement avec eux dans le cadre de projets, dans le cadre, ne serait-ce que même la surveillance en général. On travaille en réseau avec les différents instituts et organismes qui sont présents en Normandie, donc c'est important pour nous.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de C'est pas faux, votre émission hebdomadaire de culture scientifique. Rappelons-le, ce week-end c'était le Village des Sciences. Nous sommes allés à la rencontre des différents acteurs du monde scientifique venus parler des fonds marins et de leur préservation. Dans ce cadre, nous avons pu rencontrer Noémie Beau et Florian Cesbron, chercheurs au CNAM Intecmer. Je les laisse vous présenter ce que c'est.
Intecmer, c'est un établissement d'enseignement supérieur qui est rattaché au CNAM, donc au Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris. Donc nous, on est un établissement comme une université. La différence, c'est qu'on n'a pas de laboratoire de recherche rattaché au CNAM. Donc on est rattaché à l'Université de Caen pour la recherche.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous avez fait aujourd'hui, ce que vous avez présenté aux étudiants ?
Oui. Alors, on a aujourd'hui un stand en collaboration donc, avec le CIMEL. On présente en fait tout ce qui tourne autour des herbiers et notamment des herbiers de zoostère. Donc, la zoostère, c'est une plante sous-marine. On parle bien d'une plante et pas d'une algue, puisqu'elle a des racines, elle fait des fleurs et elle fait des graines. Et donc, on vient présenter un peu cette plante parce que c'est une espèce protégée. Peu de gens la connaissent et pourtant, on peut l'observer, surtout une des deux espèces, la zoosternaine, on peut l'observer à marée basse. Et en fait, c'est important à protéger parce que ce sont des herbiers où on trouve énormément de faune et de flore. Hein. C'est des hotspots de biodiversité. On a à peu près 500 espèces qui sont retrouvées dans les herbiers. Correspond à peu près à 40 fois plus que les espèces qu'on trouve en dehors des herbiers. Donc c'est vraiment important de protéger ces écosystèmes et donc on vient les présenter ici et présenter aussi les programmes de recherche qu'on a dessus.
Et donc justement, dans ce sens-là, on a un partenariat avec le CIMEL, donc les gardes du littoral de Chauzet, puisqu'on présente aujourd'hui les herbiers et les études qu'on a fait dans le cadre d'un projet ANR qui s'appelle ANR Nicibio, et où on étudie un développement méthodologique dans les herbiers pour pouvoir comprendre comment les systèmes racinaires des herbiers fonctionnent. Et on a fait notamment un des sites d'échantillonnage dans l'archipel des Chauzets. Donc là, on présente quelques photos qui devraient être exposées dans quelques mois dans les extérieurs de l'Université de Caen. Donc ce sont des photos qui ont été prises lors d'une mission d'échantillonnage aux Chauzets en août 2023. Et donc on présenterait quels sont les avantages écologiques des herbiers de zoostère, quels sont les projets scientifiques qui ont lieu autour de ces herbiers, et puis comment on impacte malheureusement les herbiers, puisqu'actuellement les herbiers sont en régression au niveau mondial.
Et là aujourd'hui c'était la journée des scolaires, comment ils ont réagi à vos ateliers? Est-ce qu'ils ont trouvé ça intéressant?
Alors, c'était très intéressant comme journée, on a eu un public assez diversifié, on a eu des petits de 6 ans, avec qui il a vraiment fallu vulgariser. Et alors on a l'avantage, c'est qu'on a un aquarium avec deux espèces différentes de zoostères. Donc ils étaient très attirés par les plantes qu'on a dans l'aquarium. Et puis après, on a une belle affiche avec des poissons qui sont dessinés dessus, qui représentent vraiment la faune qui est associée à l'herbier. Donc là, on a vraiment présenté de façon très ludique qui pouvait habiter dans ces herbiers. Et puis après, on a eu des publics plus grands avec lesquels on a pu notamment faire un quiz où on présentait des grands chiffres, la taille d'un herbier moyen, les grandes découvertes actuelles accompagnées par des captations vidéo par des requins, etc. Donc voilà, ça a été très riche et très très différent aujourd'hui comme public. Et ça a bien accroché. Là, on avait aussi un master médiation qui est passé au stand pour savoir un petit peu comment on mettait en avant la médiation au niveau de notre établissement. Donc là, ils ont pu constater notre déploiement d'outils de médiation homemade, de quiz en palette, d'aquarium, petit aquarium qu'on peut balader facilement, etc. Donc vraiment une très belle journée.
Et justement, vous parlez de médiation. En quoi c'est important de faire cette médiation?
Alors, un point important, c'est notamment parce que nos études, on les porte sur des herbiers. Les herbiers sont des habitats protégés et on a absolument besoin de faire entendre le fait que cet herbier, on doit faire attention à cet herbier, le protéger lorsqu'on est sur la côte, lorsqu'on est sur une plage et qu'on voit un herbier, on a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et pourquoi on n'a pas le droit de les faire? C'est que si on arrache l'herbier, si on fait de la pêche à pied ou si on met une ancre dedans, et en fait, on en arrache tout le système de la plante, le système racinaire, et la plante, elle est détruite et on ne peut plus du tout espérer avoir tous les avantages écologiques qu'on a accrochés à cette plante. Donc, c'est un bon outil aussi de diffuser nos informations sur des habitats protégés au niveau d'un grand public.
Et justement, vous parlez d'avantages écologiques. C'est quoi précisément?
Alors, oui, parce que donc, ces habitats qui sont protégés ont des avantages écologiques qui sont très importants. Donc, on l'a dit tout à l'heure, mais on le redit, c'est des hotspots de biodiversité, donc plus de 500 espèces qui sont recensées dedans. Comme ce sont des plantes avec des racines, en fait, elles vont permettre de stabiliser le sédiment, donc éviter la remise en suspension, l'érosion, par exemple. et également de filtrer l'eau. Donc ça va nous permettre d'avoir une eau qui est plus claire, qui est plus propre. Et puis, elles sont également, pour toutes les espèces qui viennent vers elles, elles sont des zones de nurserie, donc c'est-à-dire on va pouvoir faire la ponte, élever les petits, des zones de nourrissage, des zones de cachette, etc. On va pouvoir se fixer sur les feuilles, être protégé en fait. Donc c'est vraiment une zone qui va être idéale pour la faune qui a besoin de refuge, de toutes ces choses-là.
Et dernière petite question, comment est-ce que vous avez réussi à garder l'aspect ludique de cette médiation tout en parlant de ces enjeux qui sont quand même qui peuvent être parfois angoissants pour tout ce qui est de l'ordre de l'environnement, du réchauffement climatique, etc.
Oui, c'est vrai. L'idée, c'est vraiment de tourner ça autour du jeu. Donc c'est vrai que là, avec l'aquarium, déjà, ça permet vraiment de que les gens visualisent, et c'est toujours un peu sympa d'avoir un aquarium avec les plantes dedans. Donc on tourne vraiment autour de ça. Et puis notre petit quiz, on a des images, on essaie vraiment de tourner ça au jeu, en fait, pour que ça ne devienne pas quelque chose qui soit trop angoissant, justement. Et l'idée, c'est de montrer que y a plein de choses possibles et que tout n'est pas désespéré. On peut les protéger, on peut agir et que, en fait, c'est sympa. Et on les invite même à aller par eux-mêmes, se balader sur la plage et aller les voir par eux-mêmes et voir toute la faune qui est associée. Et en général, ça donne envie d'y aller et on espère, ça donne envie de les protéger. Il faut vraiment tourner ça un petit peu au jeu et à la découverte pour que, en général, ça se passe bien.
Le jeu et la découverte, c'est justement ce qu'a proposé NXP, ce fabricant de semi-conducteurs présent chaque année au Village des Sciences de Caen, à présenter aux visiteurs des ateliers de solutions innovantes, des drones de secours en mer au système de reconnaissance de poissons. Yves Le Guérinel, concepteur numérique chez NXP, nous présente ses différentes innovations.
Cette année, c'est l'année de la mer et le thème de la fête de la science, c'est l'océan de savoir. Est-ce que...
Tout à fait. Donc, nous sommes servis en fait des applications que nous avons faites pour se rattacher finalement à ce qui est la mer. Alors, vous avez la première partie là-bas qui, en fait, est une démonstration d'intelligence artificielle de reconnaissance des poissons. Donc, en fait, on présente devant la caméra des photos de poissons et sur l'écran, vous allez voir s'afficher le nom du poisson. Voilà, c'était une petite application assez simple développée en quelques heures, à partir de finalement de pas beaucoup d'échantillons. Ça, c'est un drone qu'on a chez NXP, mais qui ne sert pas à cette application, mais NXP a développé des composants qui sont à l'intérieur de ce drone et qui devraient normalement servir à l'aide au sauvetage en mer. C'est-à-dire qu'il est avec de l'intelligence artificielle, il est capable de reconnaître qu'une personne est en difficulté en mer et est capable d'envoyer des informations aux services compétents pour venir secourir la personne ou éventuellement lui jeter du matériel de sauvetage pour aider à sauver cette personne. Et ça ces drones-là, c'est de l'expérimental et pourraient intéresser finalement les organismes de sauvetage tels que la SNSM, qui est en fait le principal organisme qui fait du sauvetage en mer. Nous avons reçu des étudiants en BTS ce matin, donc qui étaient très intéressés par tout ce qu'on faisait. Ça représente une très très grande quantité de métiers différents que peut proposer NXP. Et nous avons eu cet après-midi une classe de seconde, donc il a fallu vulgariser un petit peu plus les différents ateliers. Mais et demain, ça va s'adresser à tout public. Dans toute personne qui sera intéressée pour regarder nos ateliers.
C'est une nouveauté cette année, le Village des Sciences se tient au Campus 1, l'occasion d'ouvrir l'événement aux sciences humaines. Et nous nous dirigeons justement vers la bibliothèque du bord du monde, une exposition itinérante au cœur d'une mystérieuse caravane. Nous y rencontrons Mathilde Bennett, artiste du collectif Caboisette qu'elle a monté avec Jeanne Dubois-Paquet. Ensemble, elles travaillent sur la frontière entre terre et mer, apportant un regard plus poétique sur l'océan. Dans un premier temps, nous leur avons demandé ce qui les a amenés à travailler sur ce sujet.
Alors c'est un travail qui date justement de notre rencontre avec Jeanne à l'école. On s'est rendu compte qu'on était toutes les deux normandes et très attirées par la mer. Et on avait toutes les deux un travail d'archives familiales autour des albums photos de famille. Et donc on s'est vite dirigé vers l'observation de nos photos de famille liées à la mer. Donc c'est parti de ça. Et après on a fait plusieurs voyages à l'étranger chacune. Et on s'est posé beaucoup de questions dans nos carnets de voyage, nos carnets de bord, quand on voyageait à pied au bord de la mer. Et on s'est posé une question, on s'est dit, est-ce que si on longeait la côte toute notre vie, est-ce qu'on pourrait faire le tour du monde sans jamais se perdre ? Donc de là est partie l'envie de partir marcher et de créer ces expéditions au bord du monde, puisqu'on les appelle comme ça maintenant, et de faire le portrait d'un maximum de bords du monde possibles à différents endroits sur la planète. Et bon, après ça, c'était l'idée de base et ça s'est enrichi de plein de questionnements artistiques, plein de rencontres aussi, voilà, beaucoup plus larges.
Là, on est dans votre caravane que vous avez installée au campus 1 de l'Université de Caen. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce qui s'y passe ?
Ouais. Alors, dans cette caravane qui s'appelle la bibliothèque du bord du monde, il y a un peu deux espaces. Il y a l'espace vraiment bibliothèque, qui est un espace, vraiment un meuble composé de 38 boîtes, qui représente les 38 jours d'un voyage qu'on a effectué au bord du monde normand en 2019. Donc depuis ce voyage-là, on a effectué d'autres voyages à l'étranger, en Irlande par exemple, au Portugal. Mais là, aujourd'hui, au Campus 1, on présente vraiment le voyage en Normandie. Donc c'est des boîtes remplies de différents fragments qui racontent le voyage. Il y a des photos, du texte, du carnet de bord, aussi des fragments plutôt des minéraux. Et les gens peuvent vraiment manipuler, toucher, consulter les boîtes. Et l'autre partie de la caravane, c'est plutôt un peu plus fictionnel, où c'est le laboratoire de trois explorateurs, vraiment l'endroit où ils ramènent toute la matière qu'ils récoltent au bord du monde. Donc ça, c'est, voilà, il y a du dessin, plein de petits objets à toucher, où on essaie de réfléchir à comment garder en mémoire des souvenirs quand on voyage. C'est plus dur à décrire, mais c'est un peu comme un cabinet de curiosité avec plein d'objets, de différentes matières, différentes formes.
Et donc, qu'est-ce qui vous a amené à participer au Village des Sciences cette année ?
Alors, on nous a proposé, parce que l'année dernière, on a fait un projet déjà avec l'université. On a travaillé avec les étudiants de la fac de géographie. On leur a proposé de toucher à la cartographie plus sensible que réelle. À ce moment-là, ils avaient déjà travaillé avec la bibliothèque du bord du monde en se basant sur des photos de la bibliothèque et des archives. Donc voilà, ça s'était bien passé. On avait bien aimé cet échange-là. On avait appris, nous aussi, plein de choses avec eux. Et donc, l'université nous a proposé de venir à l'occasion de la fête des sciences, je pense, pour apporter un regard un peu différent que le regard scientifique. Parce que nous, positionne plutôt dans un regard poético-scientifique où on s'invente un peu des fausses théories sur le bord du monde qui sont inspirées des sciences mais pas avérées. Et oui, c'est plutôt fictionnel.
Et justement, comment l'art, la poésie peut sensibiliser à l'environnement autrement que par les sciences ?
Ouais, bah ça, on s'en est rendu compte en montrant la bibliothèque du bord du monde à différents publics, que finalement ça avait vraiment cette portée-là aussi et que ça pouvait être vraiment un outil pour amener les gens à se questionner sur les questions environnementales. On a été par exemple dans une école l'année dernière en résidence et ça a vraiment été un outil parce qu'on a proposé aux élèves d'aller marcher, donc vraiment de reprendre la méthode Caboisette, d'aller marcher, de prendre des photos, d'explorer. Et en fait, on essaye de dire que plus on observe, plus on prend le temps de marcher, d'observer, de récolter des choses avec nos appareils photo, plus on a envie de prendre soin automatiquement, en fait, sans même se poser la question de ce qui nous entoure. Et même si on n'en parle pas beaucoup dans nos projets, en fait, ça nous paraît logique qu'une fois qu'on apprécie être dans la nature, on en prenne soin. Donc ça a un peu ce rôle-là, surtout quand on va voir le jeune public.
Et aujourd'hui, justement, c'était la journée des scolaires. Comment ça s'est passé avec eux ?
Ça s'est très bien passé. C'était sympa parce qu'ils étaient par petits groupes. Donc, c'est toujours agréable d'être... Ils étaient trois dans la caravane à chaque fois. Donc, on peut avoir des discussions privilégiées. C'est assez sympa. Et cet après-midi, il y avait une classe qui venait de Urville-Nacqueville, près de Cherbourg. Donc, ils vivent vraiment à deux pas de la mer. Donc... On a eu plein de discussions super intéressantes sur le littoral. Ils avaient un rapport particulier avec le territoire du bord du monde. Donc, je crois qu'ils ont été intéressés. C'était des bons échanges.
Et donc, vous nous en parliez tout à l'heure. Vous avez proposé quoi comme atelier aux scolaires aujourd'hui?
Alors, un groupe venait à l'intérieur de la caravane en immersion un peu dans l'exposition. Donc là, ils étaient libres de fouiller dans la bibliothèque et dans le cabinet de curiosité. Et après, il y avait un temps de médiation où on expliquait chaque élément, d'où ça venait, voilà, plus des explications précises. Et l'autre groupe était en extérieur pour faire un travail plutôt de dessin d'imagination, où ils devaient imaginer justement ce qui se trouvait à l'intérieur de la caravane, et donc en lien avec la mer, le littoral. Et après, on switchait les groupes.
Et on se demandait tout à l'heure, c'est quoi votre processus artistique? Comment est-ce que vous créez vos œuvres?
Oui, alors là, en fait, la bibliothèque du bord du monde, on appelle ça la matière première. C'est vraiment la matière brute de ce qui ressort des expéditions. Donc, c'est les photos, les dessins, tout ça, qu'on archive pour que voilà, ça ne bouge plus. Et après, nous, cette base de données, cette bibliothèque, en plus d'être consultable par les visiteurs, c'est pour nous une base de données dans laquelle on peut piocher. Donc, par exemple, on a fait une exposition il y a quelques temps où il y avait la bibliothèque et à côté des installations qui se déployaient. Donc, par exemple, des photos qui sont actuellement dans la bibliothèque étaient en plus grand format dans la salle, avec des choses un peu plus sculpturales. Voilà, en fait, on s'inspire de ce qu'on trouve pendant les expéditions pour créer des installations dans une autre dimension. Et on utilise aussi la bibliothèque du bord du monde pour travailler avec différents publics. Là, par exemple, on va monter un projet culture santé. Enfin, on va entamer un projet culture santé dans un EHPAD à Villers-Bocage. Et donc là, on va s'inspirer de certains éléments de la bibliothèque du bord du monde pour créer une conférence, performer lecture avec les résidents de l'EHPAD. Donc en fait, ça, c'est, on utilise toute cette matière pour créer des nouvelles formes.
Et les prochaines expositions de la Bibliothèque du Bord du Monde auront lieu courant 2024-2025. D'ici là, vous pouvez suivre le collectif Caboisette sur Instagram pour suivre leurs expéditions. Merci à tous les chercheurs, scientifiques, concepteurs et artistes d'avoir répondu à nos questions à l'occasion de la Fête de la Science.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine. Sciences Po Rennes-Caen organise mardi 15, ce soir, une table ronde de témoignages de pionniers de l'écologie. Là-bas, vous pourrez rencontrer et discuter avec les responsables de différents écolieux et tiers-lieux tels que Regard de Môme, Les Synergies ou plus localement PAA. Ça se passe de 18h à 20h au campus des Transitions.
Le bus Métips Santé de l'assurance maladie passe à Caen ce mercredi 16 octobre. Son objectif, permettre aux jeunes de 16 à 25 ans de se renseigner sur leur santé et les démarches administratives associées. Auprès des divers stands et activités, vous pourrez apprendre comment marche la carte vitale, faire un dépistage des MST et IST, ouvrir votre compte Amélie ou encore obtenir des conseils personnalisés. Alors que vous ayez des questions ou que vous vouliez profiter des différentes animations prévues pour l'occasion, n'hésitez pas à vous rendre ce mercredi place Saint-Sauveur entre 10h et 19h.
Pour les amateurs de verdure, rendez-vous au Jardin des Plantes où vous pourrez apprendre à concevoir et planter une haie riche en biodiversité. L'animation se déroule du samedi 19 au mercredi 23 octobre de 14h à 16h sous la tente d'animation. Elle est entièrement gratuite et pour s'inscrire, il suffit d'envoyer un mail à accueil-ev@caen.fr.
Et on termine avec notre recommandation documentaire de la semaine. Sylvie Guilman et Thierry Delestrade vous emmènent dans une enquête au cœur de notre microbiote, composé de 100 000 milliards de micro-organismes essentiels à notre équilibre. Longtemps méconnu, il commence à livrer ses secrets et pourrait être la clé d'avancées thérapeutiques majeures. Rendez-vous donc sur le petit écran samedi à 23h20 ou en replay sur arte.tv.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Émile à la technique. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, rendez-vous avec Bastien pour La Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.